C'est des emprunts, c'est lexical. Si je dis, le dispatcher m'a donné ma slip pour aller gazer. Bon, là, il y a des emprunts au niveau lexical. C'est des mots. Mais la structure de la phrase est très française. Le dispatcher m'a donné mon bordereau pour aller faire le plein. Hein? Bon, parce que les emprunts lexicaux, c'est rien, ça. Les emprunts qui sont faits parce qu'il y a des raisons sociologiques derrière, etc. Le type qui dit, dans le fond, mon dispatcher m'a donné ma slip pour aller gazer, c'est pas parce qu'il veut parler comme ça, c'est parce qu'il connaît pas les mots de sa langue. C'est là qu'arrive le phénomène de bilinguisme et d'aliénation linguistique.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Une page d'histoire mise en récit par un texte des archives et des musiques choisies, chaque dimanche à 15h sur France Culture, voici Jukebox. Aujourd'hui et dimanche prochain, quand le Québec se rebiffe. Tout au long des années 1960, cette province à majorité francophone du Canada entreprend une série spectaculaire de réformes destinées à revaloriser les droits des Canadiens français soumis à la domination anglophone et à l'étau de la religion. Au cours de ces années, baptisées « Révolution tranquille », le Québec redresse la tête, mais il ne va pas assez loin, lui reprochent certains qui ne tardent pas à faire parler les bombes. Dans le même temps, et tandis que règne le bilinguisme dénoncé par le poète Gaston Miron, artistes et musiciens de Montréal se saisissent de la question de la langue, répandent sur scène et dans les médias une nouvelle francophonie décomplexée, illustrée par le joual. Aujourd'hui, Québec, des révolutions plus ou moins tranquilles. Affalée sur son sofa, le cerveau vide, elle zappe de chaîne en chaîne. Au téléjournal, les flammes dévorent Montréal. Les pompiers locaux se sont mis en grève pour réclamer des augmentations et depuis des jours, les brasiers se multiplient par centaines à travers la ville. Montréal, week-end rouge, indiquant un bandeau en bas de l'écran. Des pompiers des villes voisines sont venus aider. Des habitants, des jeunes manient comme ils le peuvent une gigantesque lance à incendie, cigarette au bec. Tout le monde y va de son tuyau, dérisoire. Elle coupe le son. Des gyrophares, des rescapés hébétés, des gens en colère. Ce soir, elle devait sortir, rejoindre les autres à l'entraînement de hockey, mais elle n'a pas eu le courage. Elle est rentrée tard, après un stop au supermarché pour acheter des bricoles, lesquelles traînent encore sur le plan de travail, et elle s'est effondrée. Elle se sent épuisée, elle change de chaîne. Sur l'écran, une carcasse calcinée par des bombes incendiaires, un tag sur un mur de béton, FLQ. On disait pourtant que ces énervés avaient raccroché les gants. Elle soupire. Elle se réfugie sur une chaîne régionale où elle suit un moment des motoneiges glissant à toute allure sur des sentiers, des élans dans la forêt et des chasseurs paradant une tête sanguinolente fixée sur le capot de leur 4x4. Un gros plan sur la plaque minéralogique de la voiture et la devise québécoise « Je me souviens ». Elle, en ce soir d'octobre 1974, elle aimerait bien oublier que tout ça cesse un moment, tous ces muscles bandés, les indépendantistes et les acharnés de la langue, les anglophones qui menacent de se barrer à Toronto et les incendies géants à 15 minutes de chez elle. Elle voudrait qu'ils se taisent tous un peu, qu'on puisse rêver à autre chose. Alors elle se lève, éteint la télé et glisse un vinyle sous l'aiguille.
Je veux te dire une chanson sur la couleur du temps des sons. Avec des tons de nuit le jour qui danse et mordent à l'amour. Je veux te dire une intuition en quatrième dimension où les murs comptent les secondes et les minutes se confondent. T'offrir mon âme pour voilure. Me réveiller au bout du temps sur une vague dans le vent. Me laisser guider pour un rien. Être ton cœur et toi le mien.
Je veux te dire une nation au terme de sa gestation qui naît et meurt sans le savoir pour cela, qui n'ont pas su voir aux confins du jazz, de la bossa et de la chanson française. Je veux te dire une chanson, un classable titre signé du bassiste Vic Angelillo et de l'arrangeur Henri Hamel, sorti en 1974 à une époque où le Québec semblait, aux yeux de beaucoup, une nation à la dérive. Mais revenons en arrière.
Félix Leclerc, nous aimons beaucoup à Discorama recevoir des invités venus de l'extérieur et venus de très loin comme vous, c'est-à-dire du Canada. Qu'est-ce qui se passe au Canada?
À l'heure qu'il est, il se passe des choses assez extraordinaires. Il y a un réveil national, on peut dire, qui a commencé, disons, il y a 5-6 ans. Longtemps, dans notre province, il a été 4 heures du matin. C'est-à-dire, c'est à pas l'aube encore, c'est un peu la nuit. Quelques privilégiés avaient des lanternes, allaient au bateau chercher des livres clandestins venant d'ici.
De France.
Oui, les privilégiés savaient un peu ce qui se passait à travers le monde. Et soudainement, il était 8 heures, il est devenu 8 heures du matin. On s'est compté comme si on sortait d'une espèce de sommeil. Puis on a réalisé qu'on était 6 millions de Canadiens français dans la province du Québec. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et on a dit aux Anglais qu'on aimerait avoir des postes d'importance. Peut-être par une vieille habitude. Ils nous ont un petit peu oubliés, comme ils avaient l'habitude de nous oublier un peu. Mais il y a eu des réactions, même un petit commencement de violence, qui a permis d'ajuster leur position vis-à-vis de nous. Et aujourd'hui, on peut dire que culture, éducation, il y a les réformes, appelons ça la révolution tranquille. On ne peut pas s'empêcher d'être témoin de ces pas de géant que connaît présentement le Canada français.
Comme l'expliquait le poète Félix Leclerc en 1965 sur le plateau de Discorama, le Québec avait donc, au tout début des années 60, lancé sa révolution tranquille. Rattaché au Canada depuis un siècle, le Québec était alors la seule province à majorité francophone du pays. Doté d'un gouvernement propre et de compétences constitutionnelles limitées, il comptait 5 millions de francophones pour 1 million d'anglophones. Les Canadiens français y souffraient pourtant de nombreuses discriminations, d'un système scolaire défaillant, de postes souvent subalternes et de salaires plus faibles. Ils manquaient de confiance en eux, se voyant encore comme un peuple de petites gens nés pour un petit pain, selon l'expression. En clair, la puissance économique et par la même politique restait aux mains des anglophones. Cette prise de conscience avait chez les baby-boomers déclenché un sursaut. Profitant de la mort en 59 de Maurice Duplessis, indéboulonnable Premier ministre dont le conservatisme coulé dans le béton apparaissait de plus en plus anachronique, les libéraux avaient pris le pouvoir. Le slogan du nouveau gouvernement dirigé par Jean Lesage est clair « Soyons maîtres chez nous ». Il s'illustre par la mise sur pied d'un système d'hôpitaux publics, de nouveaux ministères, de l'éducation, des relations fédérales ou des affaires culturelles, la création d'une caisse des dépôts pour financer les entreprises. Économiquement, surtout en 63, les entreprises de production d'électricité sont nationalisées. Ça n'a l'air de rien, mais ça provoque un choc. Les cadres et ingénieurs francophones mettent un pied dans la conduite des affaires. Les Canadiens français peuvent bientôt travailler entièrement dans leur langue, développer leurs compétences, prendre du galon. Par ailleurs, l'Église catholique, qui régissait presque tout, perd en influence dans l'éducation, par exemple, qui voit la création d'un système scolaire unifié et démocratique. Les femmes mariées peuvent-elles signer des contrats et travailler sans l'autorisation de leur mari? Le droit de vote est abaissé de 21 à 18 ans. En bref, en quelques années, la révolution tranquille avait libéré les francophones, lesquels jouissaient d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle fierté et qui bientôt allaient voir s'intensifier les questionnements identitaires. Walk with. La recherche de la Golden Girl, d'un amour possible par The Rubble, autrement dit la racaille, sympathique groupe de chevelus originaire de Pointe-Claire au sud de Montréal, est l'un des groupes anglophones les plus populaires au Québec en 1967. ⁇ 1967, année du centenaire du Canada, où le Québec et Montréal, sa vitrine, sa locomotive, accueillent au printemps l'exposition universelle. Même si la modestie reste une vertu cardinale au Québec, c'est quand même l'occasion pour la province de faire sur la scène internationale la promotion de sa nouvelle modernité. À Montréal, des travaux pharaoniques ont été réalisés, 3 lignes de métro ont été percées et grâce aux remblais excavés des tunnels, une nouvelle île a vu le jour sur le fleuve Saint-Laurent afin d'accueillir les dizaines de millions de visiteurs attendus. C'est l'attraction de l'année, on y vient, on y revient, rêver d'un monde moderne, de design, d'espace. Un mini-train aérien slalom de pavillon en pavillon, traversant en son centre l'immense sphère du pavillon états-unien. Des pavillons dont s'échappent presque chaque soir des concerts en tout genre. On peut y entendre les stars de la contre-culture ou de la folk américaine, mais aussi toute la nouvelle génération québécoise. Côté chansons à texte, le jeune Robert Charlebois se produit sur la même scène que Leonard Cohen, lui aussi un enfant de la ville, même s'il est déjà parti vivre ailleurs. Chaque soir, pour 1$, on peut également assister à un double concert de rock canadien à la discothèque du Jardin des Étoiles. S'y produisent The Rubble, qu'on écoutait plus tôt, ou bien les Hoolops, un ancien groupe de yéyé originaire de Saint-Hyacinthe, à 50 km à l'ouest de Montréal, et qui donne alors dans le style garage. Les musiciens, tu vois, ne veulent plus ça. 1967, les Hoolops pour ce morceau intitulé « J'étudie mon grec », même si c'est alors l'ancienne Gaule qui fait parler d'elle. Balcon de l'hôtel de ville de Montréal, 24 juillet 67.
Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue de tout mon cœur. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous, si vous saviez quelle affection elle recommence à ressentir pour les Français du Canada. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir, en ajoutant que j'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre!
Tandis que De Gaulle, qui effectue l'été 67 une tournée sur place, joue avec le feu, déclenchant l'ire du gouvernement d'Ottawa et de la presse anglophone, la question de la langue incarne le nouvel enjeu de société. Les poètes, les écrivains, les artistes s'en mêlent. Pour eux, il est temps que la langue employée dans les médias et la culture reflète celle utilisée tous les jours dans les rues. Un français trempé d'accents, d'expressions populaires, de jurons et matinées de mots d'anglais. Ce dialecte, ce patois, c'est le joual, formé depuis la fin du 19e, tandis que les anciens paysans francophones devenus ouvriers rapportaient des usines, des mots américains, des mots que leurs femmes avaient intégrés en les déformant. Exemple, le terme « bécosse » désignant des toilettes situées au fond d'une cour était né de « back house », l'arrière de la maison. Le joual, donc, gagne en visibilité quand, en 1968, sont données « Les belles sœurs », une pièce d'un jeune dramaturge, Michel Tremblay. L'histoire, une femme au foyer gagne 1 million de timbres de loterie afin de s'offrir ses rêves sur catalogue. Pour ce faire, elle convie 15 femmes, des parentes, des amis, à venir l'aider à un parti de collage de timbres, libérant par là même les jalousies. Le tout est raconté dans un joual sans phare. Par sa langue, son grotesque, sa dénonciation de l'hypocrisie de la société, mais aussi ses interactions incessantes avec un public qui rit fort ou s'insurge à plein poumon, la pièce torpille le carcan du théâtre québécois élitiste, celui des classiques français et d'une morale plus catholique. Et puis quelques mois plus tôt avait été donné l'Hostie Show, un happening déjanté, une messe païenne, mélange de sketchs, de chansons et de free jazz, emmené par Robert Charlebois, l'humoriste Yvon Deschamps, la comédienne Mouffe et la chanteuse Pauline Julien. Au-delà de l'aspect foutraque de l'ensemble, la controverse enfle là encore sur la langue utilisée. Et d'ailleurs, le joual est-il une langue ou simplement du mauvais français ? La culture devrait-elle faire la promotion d'un parler châtié ou refléter la réalité de la rue ? Plus d'une fois, des représentations sont interrompues par des alertes à la bombe. Mais il faut dire que des bombes, on en pose pas mal à l'époque. À commencer par le Front de Libération du Québec. Né en 63, ce mouvement clandestin d'extrême gauche entend mettre à bas le colonialisme économique anglophone, améliorer le sort des plus pauvres et accéder à l'indépendance. Le FLQ avait multiplié les bombes incendiaires déposées devant des casernes, des centres des impôts, la gare de Montréal ou bien des boîtes aux lettres de résidents du quartier huppé de Westmount. On avait alors lancé un appel à récompense pour coffrer les responsables, mais en janvier 64, l'organisation, le FLQ, donc, avait réussi un vol d'envergure s'emparant d'un véritable arsenal dans une caserne. Les actions n'avaient jamais vraiment cessé. En 68, le FLQ avait tenté de tisser des liens avec les Black Panthers états-uniens. Cette fin de décennie, le Québec et notamment Montréal plongent en pleine contestation de l'ordre établi, en pleine agitation contre-culturelle sur fond de décolonisation, de défiance américaine et de dénonciation des massacres au Vietnam. La chanteuse et comédienne Louise Forestier pour ce From Santa to America publié en 69. Louise Forestier, figure majeure de la contre-culture d'alors, qui avait participé en 68 à l'expérience de l'hostie show, y inventant une figure de femme libérée des carcans. Même si, au cours du spectacle, celui qui tenait le devant de la scène, c'était Charlebois. Robert Charlebois, l'incontournable de cette histoire. En 68, il a 24 ans, fils de la grande bourgeoisie montréalaise. Il a très tôt quitté le collège, suivi des cours de théâtre avant de se tourner vers la chanson, se produisant dans les boîtes à chansons, ces institutions musicales de Montréal, apparues au début des années 60 et où, parmi des étudiants sirotant des litres de café, les grands chansonniers d'alors comme Félix Leclerc, Gilles Vigneault ou Claude Léveillé s'étaient mis en tête de faire de ce genre un étendard identitaire. À ses débuts, Charlebois donne dans de jolies chansons déroulées d'une voix grave. Puis vient l'électrification de la musique. En 67, il est allé traîner en Californie, y a découvert le LSD. Et c'est lui qui, cette année 68, à travers l'hostie show, popularise le rock chanté en joie. « Une nuit de 68, tandis qu'il vit en communauté avec d'autres artistes, il écrit et compose avec Claude Péloquin, le surréaliste Lindbergh, où les voyages en avion à bord de compagnies aériennes incarnant le rêve se transforment en vol sur des tapis de Turquie, en errance à dos de chameau ou en chute en parachute. L'histoire d'un trip, en somme, où la chanson traditionnelle québécoise se teinte de rock et de psychédélisme. Interprétée avec Louise Forestier, encore elle, elle les emmènera tous deux l'année suivante et en avion à l'Olympia.
Des hélices, astrojet, whisper jet, clipper jet, turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. Qui a pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. J'ai farci, et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je suis rendu. Ah, Sophie, pas Sophie à moi. Qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos du chameau.
Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Mais j'ai pu. Je ne sais plus où je suis rendu. Puis j'ai fait une chute, une crise de chute en parachute. Et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit. Allez là, que j'avais ramassé. Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Robert Charlebois et Louise Forestier, Lindbergh, paru en 1968. Dès lors, notamment à Montréal, la culture devient politique. Accompagnant l'élévation du niveau de vie, l'offre culturelle explose, tout comme le nombre de librairies. En mars 70, s'est organisée dans un théâtre de Montréal la Nuit de la Poésie. L'événement attire 4000 spectateurs. Il faut même installer des écrans à l'extérieur. toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin défilent une cinquantaine de poètes francophones venus de toutes les régions du Québec. Y participe notamment une jeune poétesse, Michèle Lalonde, qui déclame un poème écrit 2 ans plus tôt pour soutenir les prisonniers du FLQ. Ce poème s'intitule « Speak White », autrement dit « Parler blanc », référence à une insulte adressée un siècle plus tôt à un député de la Chambre des communes du Canada qui avait pris la parole en français.
Speak white. Speak white. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose, de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white, haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Mais pour vous dire l'éternité d'un jour de grève, pour raconter l'histoire d'un peuple concierge, mais pour rentrer chez nous le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus des ruelles. Mais pour vous dire, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de nos vies à l'est de vos empires. Rien ne vaut une langue à jurons. Notre parlure pas très propre, tachée de cambouis et d'huile.
France Culture, Jukebox, aujourd'hui, Québec. La révolution, c'est ce que je veux dire.
Que ce soit le métro ou l'expo, le maire drapeau ou ses expos, n'oubliez pas la citadelle, aussi belle que la tour Eiffel. En devenant tout solidaire, on ne sera plus minoritaire. Pourquoi faut-il se faire la guerre, mes frères? Le Québec sera fait, si personne ne laissera faire. Que l'on soit un bleu ou un rouge, capitaliste ou communiste, moi je suis un idéaliste. Je crois qu'il faudrait que ça bouge. En devenant tout solidaire, on ne sera plus minoritaire. Pourquoi faut-il se faire la guerre, mes frères? Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec sera fait s'il ne se laisse pas faire. Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec sera fait s'il ne se laisse pas faire.
En 1969, le groupe La Révolution Française pour ce Québécois hymne à la solidarité entre rouge et bleu, capitaliste ou communiste, dans un Québec déchiré par les divisions. « À l'origine de la Révolution française, on trouve un groupe sous un autre nom, les Sinners, les pêcheurs au sens religieux du terme, des fils de bonne famille, originaires du quartier d'Outremont à Montréal. Dandy, inspiré des mods britanniques, ils se font remarquer dans les milieux underground, à la Planque à Loulou, la discothèque la plus branchée de la ville, avant d'enregistrer deux albums. Invités sur les plateaux de télé, ils s'y pointent accompagnés d'un éléphanto, ils torpillent l'illusion du playback de rigueur. Sur scène, ils engueulent leur public, récitent des « Je vous le salue Marie » ou jouent au basket pendant un quart d'heure. En 69, ils poussent la provoque un cran plus loin avec des titres comme « Go Go Trudeau » où ils se moquent ouvertement du Premier ministre fédéral. Les Sinners qui incarnent un aspect de la mouvance underground qui sévit alors à Montréal, une nébuleuse qui bouillonne de revues, de théoriciens qui fédèrent les adeptes du nouveau jazz, le quatuor de jazz libre du Québec qui accompagnait l'Hostie de Show, de groupes plus électroniques comme l'Infonie. Tout ce petit groupe se retrouve notamment au Patriote, une boîte à chansons située à l'est de Montréal. Ces années-là, le Québec est bien loin d'une prétendue tranquillité. La province affiche de mauvais résultats économiques, le chômage grimpe en flèche et les meilleurs emplois restent aux mains des anglophones. Les indépendantistes du FLQ sèment la terreur. Entre 68 et 69, plusieurs attentats à la bombe ont lieu notamment à la Bourse de Montréal. À l'automne 70, des membres du FLQ enlèvent à son domicile de Montréal un diplomate britannique, James Cross. Puis c'est au tour du vice-premier ministre et ministre du Travail québécois, Pierre Laporte, d'être enlevé à Saint-Lambert. Les ravisseurs exigent que la police cesse leurs recherches, qu'ils libèrent 23 des leurs, 500 000 dollars en or déposés dans un avion avec un sauf-conduit vers Cuba ou l'Algérie, ainsi que la publication dans la presse du manifeste du FLQ. Le gouvernement n'accède qu'à cette dernière revendication. Quelques jours plus tard, le gouvernement fédéral du Canada sort l'artillerie et instaure en pleine nuit une loi d'exception. Les libertés fondamentales sont suspendues, l'armée se déploie, 30 000 perquisitions ont lieu, 400 interpellations sont conduites sans mandat ni motif, non seulement parmi les membres supposés du FLQ, mais aussi parmi leurs sympathisants. Las, cette manœuvre d'intimidation de la gauche québécoise déclenche la riposte immédiate du FLQ. Archives France Inter, 18 octobre 70.
Les drapeaux sont en berne au Canada. Un deuil de 3 jours a été décrété au Québec. Patrick Lecoq.
C'est avec une énorme émotion que les Canadiens ont appris hier matin l'assassinat du ministre du Travail et de l'Immigration du gouvernement du Québec, M. Pierre Laporte. Celui-ci a finalement été assassiné d'une balle dans la tête par ses ravisseurs du Front de Libération du Québec. Comble de raffinement, peut-être, le commando du FLQ qui retenait M. Laporte l'a exécuté 8 jours, heure pour heure, après son enlèvement. On avait pensé pendant quelques heures que M. Cross, le conseiller commercial britannique enlevé, lui, il y a 13 jours par les séparatistes, avait subi également un sort tragique. On est un peu plus rassuré maintenant. M. Cross semble être vivant. Hier, il a adressé à sa famille et au gouvernement du Québec 2 lettres. Dans celle-ci, il demande que tout soit fait pour obtenir sa libération. Il demande surtout que la police arrête ses recherches. Pourtant, et malgré cette lettre, il semble que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec aient décidé de durcir encore leur position. Par la justice, nous nous débarrasserons de la perversion du terrorisme. Par la justice, nous retrouvons notre paix et notre liberté, a déclaré M. Trudeau dans une allocution à la Nation.
À l'issue de ce qu'on appelle la crise d'octobre, la plupart des souverainistes québécois condamnent l'assassinat de Pierre Laporte, y compris René Lévesque, un ancien journaliste qui, en 68, s'avait créé le Parti québécois, prônant la souveraineté, mais par des moyens démocratiques.
Yesterday morning, and I decided to hit the highway. I had no plan fermented. I did not know which way I was going to see an old friend, one I had not seen in many a day. I was getting too speedy in the city. I don't like myself that way. When the city sidewalk crowd you, and you feel
you'd like to leave, don't take too much time to think about it. You could take senses of your St. Adrian du Hell. We did not need very much money, 'cause we were happy being free from where we'd been. When the city sidewalks crowd you, look out, you feel you got to leave. Don't take too much time to think about it. You could take senses of your you could take senses of you.
Figure de la contre-culture montréalaise, la chanteuse Penny Lang, qui s'était longtemps produite sur scène mais attendra les années 90 pour enregistrer son premier album et ce Senses of You Leave. À la suite de la crise d'octobre 70, le FLQ disparaît progressivement des radars. L'appui au mouvement séparatiste ne cesse pas pour autant, incarné par la montée en puissance du Parti québécois de René Lévesque. Ces années 70, le milieu musical québécois se professionnalise, le rock accompagne les événements de la société et les changements sociaux, notamment lors de grands rassemblements comme la Super Francofête organisée en août 74 sur les plaines d'Abraham, un immense parc de la ville de Québec. D'autres groupes se forment comme Harmonium, Beau Dommage ou bien dans un registre plus traditionnel, la Bottine Souriante. Et puis il y a le jazz rock du Ville-Aymar Blues Band. Mais dans le même temps, donc, les séparatistes gagnent en endurance. Après avoir fait élire quelques députés indépendantistes, le Parti québécois s'empare du pouvoir. Archives France Inter, novembre 76.
Vive le Québec libre. C'était le 24 juillet 1967 au Canada. La phrase du général de Gaulle avait eu son petit succès. 9 ans plus tard, cette nuit même à Montréal, le Parti québécois, autrement dit les indépendantistes, viennent de gagner les élections. Avec 59 sièges sur 110, ils ont donc la majorité absolue à l'Assemblée nationale de leur province. À leur tête, René Levesque, le leader du parti, pour eux et pour lui, c'est le grand jour.
J'ai pas besoin de vous dire à quel point je incapable en ce moment de faire un commentaire sur l'extraordinaire marque de confiance qui était inspirée. Je dois vous dire franchement qu'on l'espérait de tout notre cœur, mais on ne l'attendait pas comme ça cette année. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois que ce soir.
La tête qui gèle, le crâne qui craque, c'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles, un stéréo dans mon cerveau, j'ai l'univers dans ma cuillère. C'était dans la semaine des trois jeudis, on a sniffé du patchouli. À l'avant de mon Sting Sky Lolo, pis elle avait pas le bouton dans le dos. On est de Wiping Floyd. On a mangé des hot dogs. On s'est rendu au 7e ciel, le bon Dieu, ça m'en rappelle. Je drop des boulamites. Je suis rongé par mon mythe. Je bois de la robin. Puis je rêve à Chaplin. Capotée bien raide. Je l'aime parce qu'elle est laide. C'est une vraie flotte. C'est avec elle que je veux prendre ma botte. La tête qui gèle,
le crâne qui craque. C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles, un stéréo dans mon cerveau. J'ai l'univers dans ma cuillère. Je suis le top des tops. Je chante pour les mops. Je chante pour les tapettes pis les voleurs de corvettes. Pour ceux qui mangent le crotte de nez pis ceux qui sont pas capables de bander. Je suis jamais à l'heure, c'est moi le bonhomme 7 heures. Je mange des sardines parce que je fais pas une grosse paye. Je suis un sniffeux de slipin, puis j'ai droit au soleil. J'suis pas en mer à boire, il fait pas si noir à soir. Puis c'est pas avec des miroirs qu'on va voler pas savoir. La tête qui gèle, le crâne qui craque. C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes à mes bretelles, un stéréo dans mon cerveau. Le volume au bout. Donne-nous un claque, Jack. Oh, t'es capable.
1975, Le Freak de Montréal, extrait du premier album du groupe Autre Chose, autour du chanteur Lucien Francoeur. Jusqu'alors, donc, si tout le monde ou presque parle français au Québec, dans les rues, tout est indiqué en anglais. Ça changera finalement en 77, quand l'Assemblée nationale adopte la charte de la langue française, qui confirme le français comme langue officielle dans l'éducation, l'affichage et les relations de travail, dans le respect toutefois des droits des anglophones et des communautés autochtones. Certains se mettent à rêver d'autonomie, d'indépendance, d'autant que le nouveau gouvernement s'est engagé à organiser un référendum sur la souveraineté. Les choses traînent, mais la consultation a finalement lieu en 1980. Archives France Inter, 21 mai.
À la prochaine fois, c'est la petite phrase lâchée les larmes aux yeux par le Premier ministre du Québec, René Lévesque, cette nuit devant plusieurs milliers de Canadiens en apprenant sa défaite au référendum. En disant non à près de 60%, les Québécois ont en effet repoussé le projet d'autonomie politique de leur province. Sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Bertrand Vanier.
Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise?
9h30 hier soir dans l'est de Montréal, René Lévesque, le visage ruisselant de larmes, vient de reconnaître sa défaite. Une défaite en forme de gifle pour les partisans du oui. Ils sont plus de 10 000 à s'entasser sur des gradins réservés ordinairement aux passionnés du hockey. Tout est bleu et blanc, comme le seront quelques heures plus tard les rues de Montréal, envahies par les perdants. Les vainqueurs, eux, sont invisibles. Au début de la soirée, alors que déjà la défaite du oui s'annonçait, Fabienne Thibault était venue réchauffer le cœur des futurs perdants en chantant « Aimons-nous quand même ». Des paroles prophétiques dans un Québec qui va devoir panser ses plaies. La victoire du non est trop nette pour que le Parti québécois puisse la contester. Même et surtout les francophones ont lâché René Lévesque. Ils n'ont pas voulu de la souveraineté association. Reste le changement au sein du fédéralisme. Les vainqueurs d'hier l'ont promis pour demain.
L'échec au référendum douche les espoirs des autonomistes. Il vient refermer la période des réformes et la rupture de la révolution tranquille. Il n'empêche que ces années 60 et 70 auront profondément façonné l'identité contemporaine du Québec, même si tous ces changements n'iront pas sans conséquences parfois fâcheuses. Ainsi, comme on le verra la semaine prochaine, les nouvelles mesures prises en faveur de la francophonie ont commencé à faire fuir nombre d'anglophones vers l'ouest, plombant la démographie et le développement de la province. Mais cette année 1980, les anglophones n'ont pas tous la dent dure envers leurs concitoyens francophones. Ainsi, Dwight Druk, un natif de Montréal, adapte-t-il en français le Georgie Porgy du groupe Toto ? Encore une histoire d'amour, je veux pas changer ma vie, chante-t-il, comme une main tendue. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox aujourd'hui, Québec, les révolutions plus ou moins tranquilles. Une émission préparée par Lily Cornert, Pierre Plantin à la discothèque et Hervé Evano pour les Archivina. Un grand merci à un auditeur québécois, Martin Guérin, qui nous a soufflé l'idée de ce sujet et donné des conseils précieux. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter cette émission, retrouver la liste des morceaux et des archives diffusées, la possibilité de nous écrire pour le téléchargement, préférer l'application Radio France. À la technique aujourd'hui, c'était Swat Boukorsa, Agnès Catou à la réalisation. Merci à toutes deux. Au micro et au stylo, à Maurice Charles. À dimanche pour un prochain Jukebox. Nous resterons au Québec pour plonger dans le Montréal des années 90-2000.